Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée ensoleillée comme on a connu aujourd'hui, on en veut tout le temps. Ce soir, on va passer un excellent 60 minutes avec Alain Sanson de la Société Conseil. Alain Sanson, c'est un formateur, c'est un coach pour entreprises. Que vous soyez à Québec, Canada ou ailleurs dans le monde, Alain Sanson est là pour vous. Et il aurait, selon la légende, écrit plus de 130-140 livres. Je ne sais pas s'il se souvient de tous ces livres-là, mais bref, on va le tester une couple de fois dans la soirée. Monsieur Sanson, c'est un plaisir de vous avoir en studio.
Bien, le plaisir est partagé.
Merci beaucoup de vous être déplacé. Alain Sanson, c'est un petit gars de où, ça?
Drummondville. Eh oui.
Est-ce que vous avez grandi et évolué tout au long de votre carrière à Drummondville?
J'ai grandi, je me suis marié.
Puis vous avez travaillé là-bas?
J'ai travaillé là-bas, sauf que en 91, j'étais rendu directeur général pour une entreprise qui appartenait à mon beau-père.
OK.
Entreprise familiale, puis il est décédé et la chicane au poignet.
Dans la famille.
Eh oui. Fait que j'ai une belle-sœur qui est venue me voir, qui m'a dit, toi, ta job, t'es dehors. Je me suis tourné vers mon épouse. J'ai dit, qu'est-ce qu'on répond à ça? Elle a dit, ça serait bon que tu t'en ailles. 91 n'a pas été une bonne année pour moi.
Ben non, je comprends.
J'ai perdu une job, j'ai perdu un beau-père que j'aimais. Mon couple s'est mis à s'effriter. Tellement que je suis retourné aux études, j'ai fait mon MBA. Puis quand je suis ressorti un an plus tard, j'ai écrit mon premier livre, « Famille en affaires pour en finir avec les chicanes ».
Donc, vous étiez directeur général d'une entreprise qui est une entreprise familiale. Il n'y avait pas de lien de sang avec cette entreprise familiale-là. Vous étiez marié avec la fille de...
Exactement.
Et finalement, le monsieur décède, chicane dans la famille, et là, Alain Sanson se retrouve plus de job. Est-ce que vous vous définissiez à cette époque-là par votre travail, M. Sanson?
Oui.
Oh boy.
Oh oui, c'était ma job. En fait, je travaillais. C'est fou comment on travaillait, tu sais.
Mais la chute. Quand on se définit en tant qu'être humain par le travail qu'on fait, c'est la chute, advenant le cas où ça se termine du jour au lendemain.
C'est le vide, là. Moi, j'avais les cheveux foncés avant.
Oui, c'est ça.
Oui.
Puis c'est le fait que vous avez perdu cette job-là, que ça soit rendu blanc aujourd'hui?
pas juste la job, le couple, tout ça.
Oui.
Non, ça a été vraiment l'écrasement.
Un épisode de stress.
J'aurais pu m'asseoir sur le bord du trottoir et dire que c'était fini, là.
À ce point-là?
Ben oui, mais finalement, je dis, pourquoi pas en profiter pour rebondir.
Ouais. Et vous aviez quel âge à l'époque?
31.
Retourner à l'université à 31 ans, ça prenait énormément de courage.
Oh oui, mais j'ai toujours aimé apprendre. Alors, c'est une récompense, ça m'a fait une année sabbatique.
Une année sabbatique?
Oui.
Puis, vous avez fait votre MBA et par la suite, vous êtes dit, qu'est-ce qu'il fait André Sanson?
Alain
Sanson.
Bien, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un livre là-dessus. Pourquoi je suis arrivé là? Parce qu'ils m'ont enseigné plein de belles affaires au MBA.
Ouais.
J'en veux pas à l'UQAM, sauf qu'ils m'ont pas expliqué pourquoi j'étais là, pourquoi mon beau-père avait pas planifié la survie de sa business. Fait que j'ai dit, je vais faire des recherches, je vais étudier ça. Et je vais écrire un livre là-dessus. Puis je suis tombé sur les livres du gourou américain de l'entreprise familiale qui s'appelle Léon Danko. Puis un de ses livres était tellement bon que j'écris à Danko, je dis, je veux traduire ça pour le public québécois.
OK.
Quand tu écris un auteur américain, tu t'attends pas à ce qu'il te rappelle. Deux semaines plus tard, il m'appelle. Ça m'intéresse. Viens jaser, je suis à Cleveland. Fait que je prends l'avion, je pars pour Cleveland. Pendant deux jours, je jase avec M. Danko.
Ouais.
Puis au bout de deux jours, on marche dans son jardin. Puis il me dit, ma décision est prise. Je dis, oui. Il dit, non. Tu n'auras pas les droits sur mon livre. Un livre, t'en as un en toi. Retourne chez vous et écris-le.
C'est ce qu'il vous a dit?
Yes.
Est-ce que ça a été le meilleur conseil que quelqu'un vous a donné à l'époque?
Oui.
Ouais.
Je suis revenu à Drummond. Je suis descendu dans la cave. Un mois et demi plus tard, j'avais un livre d'écrit.
C'était votre premier livre.
Eh oui.
Puis là, Alain Sanson, il se rend pas riche avec un livre, là?
Oh non. Si on veut faire un peu d'argent, c'est pas le livre. C'est les conférences, les formations puis le coaching.
Donc, votre premier livre s'appelait comment?
Famille en affaires pour en finir avec les chicanes.
Puis ça s'est vendu à combien d'exemplaires?
À l'époque, ça se vendait beaucoup plus, les livres. Ça doit avoir touché à peu près 10 000, puis j'étais un nouvel auteur. C'était bon.
OK. Fait que 10 000, est-ce que c'est considéré comme un best-seller au Québec ce moment-là?
Québec, présentement, même à l'époque, 3 000 y écrivent best-seller.
3 000, c'est best-seller. Puis vous avez pogné le 10 000 avec votre premier livre.
Eh oui.
Mais là, on se rend pas riche, faut faire des conférences. Est-ce que, vous étiez est-ce que vous étiez capable de parler devant public?
Absolument pas.
D'être dynamique, de tenir les gens en haleine pendant 60 minutes? C'est terrorisant, ça, M. Sanson?
Absolument. Et je dirais même que pendant les 6 premières années où j'ai été conférencier, j'étais plate.
À ce point-là?
J'étais plate. En fait, je me prenais pour un prof d'université. Donc, j'endormais.
Ouais.
Mais j'avais beaucoup de contenu. Sauf que, début 2000, j'apprends qu'à l'Université de Pennsylvanie, il y a un monsieur, Martin Seligman, qui vient de lancer un séminaire qui s'appelle « The Authentic Happiness Coaching Program ». Je m'inscris. Ça a complètement changé mon écriture, ma façon de donner des conférences.
Ouais.
À cette heure, c'est des shows que je donne.
Bien, c'est comme ça qu'il faut le voir. Moi, j'ai eu le plaisir d'enseigner mon métier au Collège Radio-Télévision de Québec.
Mm-hmm.
Et je leur disais aux animateurs et aux futures animatrices, c'est, vous voulez faire ce métier-là, vous devez le faire pour les bonnes raisons. Puis oui, il faut être factuel. Oui, on parle d'actualité, mais vous avez beau être les meilleurs qui sont sur le factuel, les meilleurs pour discuter d'actualité ou encore les meilleurs pour parler de tel ou tel livre, si vous ne le faites pas d'une façon divertissante, d'une façon captivante, vous n'avez pas de l'air heureux, vous ne faites pas des changements de ton, vous n'êtes pas drôle, ça ne fonctionnera jamais, votre affaire. Puis, à un moment donné, au fur et à mesure que l'année avance, ils commencent à comprendre que, oui, on parle de trucs qui sont assez sérieux, mais c'est facile de le faire avec le sourire, puis d'être divertissant, puis c'est ce que vous faites présentement.
Et de toute façon, si tu veux que ton message passe, fais-les rire.
Oui.
Et ça rentre.
Oui.
Et ils retiennent.
Mais vous l'avez appris très tôt avec les femmes, ça?
Oui.
Oui, c'est ça. Vous n'avez pas appris ça dans les livres, là?
Non. J'avais quand même un peu de pratique, sauf que face à un auditoire, ma première conférence, c'était derrière un lutrin, puis j'ai lu tout le long, là.
Ah oui, OK.
OK. Je partais de loin, là.
Mais au moins, vous en avez une deuxième.
Ben oui, puis une troisième.
Puis là, vous avez fait combien de conférences depuis les années 90?
À peu près 4000.
4000 conférences.
Oui.
Est-ce que c'est uniquement des conférences dans le secteur de Drummondville, Québec, Montréal?
Non. Je fais du Nouveau-Brunswick, je fais même des congrès internationaux. Le plus loin je me suis rendu, c'est la Martinique.
Wow! Parce que ça parle français là-bas.
Ça parle français, oui. Puis c'était un congrès de Mercedes. Et ça a été beau. Un Club Med en Martinique, oui. La semaine est belle.
Je vous demanderais de cesser de me parler de votre misère. Et vous êtes toujours resté dans le monde des affaires en tant qu'expert conseil?
Oui, absolument. En fait, c'est vraiment ma veine. Je fais beaucoup de développement personnel aussi, comme « Faites votre chance »,« Un collègue veut votre peau ». Ça, c'est « Comment se débarrasser des boulets au travail ».
Ouais. « Faites votre chance ». Ça, je pense que vous avez fait cette conférence-là tout juste en dessous des studios de Leclerc Communication où vous êtes présentement. C'est la scène Le Bourgneuf.
Absolument.
Et la chance, ça n'existe pas, ça, M. Sanson. Quand on est en affaires, la chance n'existe pas.
Pour beaucoup de gens, la chance, c'est comme décider à naissance. Tu sais, tu viens au monde, là, puis il y a quelqu'un, je sais pas, dans le haut du monde Olympe, qui décide si tu vas être dans la gang des chanceux ou des bad lucky.
OK. Ben, mais c'est quoi ça? Là, je peux vous le donner, par exemple. Ça se peut que tu puisses naître dans un endroit qui va peut-être être approprié, puis que tu vas avoir tous les besoins de combler à la naissance. Mm. Ça se peut que tu naisses dans un endroit où il va te manquer quelques trucs. Des fois, c'est ton père, des fois, c'est ta mère, des fois, c'est l'argent, des fois, c'est la nourriture, des fois, c'est les écoles que tu pourras pas fréquenter parce que c'est pas les meilleures écoles du monde entier. C'est des écoles bien normales. Ça se peut qu'il y ait un petit peu de chance au départ à savoir dans quelle famille tu vas tomber.
Oui, mais certains tombent dans des familles, ils ont tout puis ils aboutissent pas, tandis que d'autres passent par des années difficiles puis eux autres émergent, se trouvent une mission.
Ouais.
Puis se lance.
Mais est-ce que ça, c'est de la chance ou c'est de la persévérance? Puis est-ce qu'on apprend dans la misère ou on apprend dans la facilité?
Un des éléments de la chance, c'est qu'on contextualise les obstacles. Au lieu de se dire « ça marche pas, m'arrêter ça », on se dit « OK, ça n'a pas marché comme ça,
ouais.
Comment je vais le faire la prochaine fois? » Sans entêtement, simplement en se disant « OK, j'ai trouvé une façon que ça ne marche pas, checkons les autres. »
OK. Puis on fait comment notre chance?
La chance, c'est un trait de caractère qui nous permet de profiter du hasard. Le hasard, ça existe. Mais les gens chanceux ont développé 6 habitudes. Non, 5. Le C de chance, c'est choisir d'aller plus loin, se donner des objectifs. Parce que l'être humain carbure aux émotions, carbure aux objectifs. Pourquoi tu serais rempli d'énergie si tu n'as pas de projet?
C'est vrai.
Ça ne servira à rien.
Mais il y en a qui vivent aujourd'hui puis qui évoluent dans un... au jour le jour puis qui n'ont pas nécessairement de projet à court et long terme. Là.
C'est triste.
Eux vont au gré du vent puis, ben moi, c'est triste, effectivement. Mais si ces gens-là se plaisent là-dedans, c'est bien correct. Mais moi, j'ai besoin d'atteindre certains objectifs, que ce soit avec mes enfants qui sont ma priorité, que ce soit avec ma blonde, que ce soit avec la mère de mes gars. T'sais, on a encore des objectifs en commun. Pour, ben oui, c'est nos enfants. Et tout ça. La carrière aussi, j'ai des objectifs de carrière.
C'est ce que ça prend, puis ça prend aussi des objectifs équilibrés.
Équilibrés, oui.
Pas tout dans la même sphère, comme l'erreur que j'ai faite, toute ta business en 91.
Oui. Parce que vous vous définissiez comme ça.
Eh oui, j'étais ma job.
Puis moi, tu sais, j'ai des chums militaires puis ex-militaires, puis à partir du moment où ils deviennent ex-militaires, ils ne sont plus capables de se définir en tant qu'individu.
Ah, c'est sûr, ils ont perdu qui ils étaient.
Oui.
Et c'est le gros problème. J'ai écrit un livre, Devrais-je démissionner? Puis c'est le gros problème de ceux qui perdent le job parce que le lendemain, ils disent « Maman, trouvez une job. » Mais non, ils ont un deuil à faire parce que le lendemain, ils sont encore Roger qui travaille chez Hydro. Ils sont encore Chantal qui travaille au IGA.
Ouais.
Ils ne sont pas encore débarqués de ça. Ils n'ont pas retrouvé le contact avec ce qu'ils sont.
Donc, provoquer la chance. Avoir des objectifs.
Oui, là, c'est le C. Le H, appeler l'instant présent. Parce que chacun d'entre nous, on baigne dans chance. Il y en a tout le tour.
Ouais.
Sauf que les chanceux la perçoivent. Au lieu de regarder dans l'univers ce qui va mal, ils se demandent qu'est-ce qui va bien puis quelles opportunités il y a ici. Tu sais, t'as beau être dans une chambre, une salle d'attente de dentiste. Bon, mais si tu as des projets, tu vas feuilleter un magazine, tu vas peut-être trouver exactement ce que ça te prend comme information. Ou tu vas jaser avec ceux qui sont autour de toi, puis tu peux réaliser que, oh, un client potentiel.
Oui.
Tu es chez le dentiste, mais tes projets, tu perds pas de vue. Le H, appelle l'instant présent, c'était ça.
Oui. J'ai des amis autour de moi qui travaillent dans le merveilleux monde de l'immobilier. C'est des courtiers immobiliers. Puis les individus que vous décrivez, là, j'en reconnais quelques-uns. J'en ai un qui n'a pas besoin de faire de prospection téléphonique. Puis j'en ai un autre qui ne fait que ça du matin jusqu'au soir. Puis. Est-ce qu'un fonctionne plus que l'autre? Là, n'est pas la question. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, qui n'a pas besoin de faire de prospection téléphonique, quand il va chez le dentiste, quand il va chez Tim Hortons, quand il va dans des endroits où il y a des 5 à 7, il jase à monsieur et madame tout le monde. Puis parfois, ben, qu'est-ce que tu fais, toi, comme métier? Ben, moi, je suis courtier immobilier. Je fais ça, je travaille dans tel secteur. Oh, ah ouais, tu travailles dans. Hey, ma belle-sœur, elle veut justement vendre sa maison dans pas long, là.
Exactement.
Ben, écoute, si t'es assez gentil, tu me donneras son nom. Je vais être extrêmement respectueux, puis je vais l'appeler le moment où tu me diras que je peux l'appeler, ça te va-tu? Ben oui, pas de problème. Je les vois aller, puis je me dis, OK, ce gars-là voit toujours des opportunités sans nécessairement importuner les gens.
C'est ça. Et l'autre, celui qui fait des cold calls la journée longue, peut regarder lui en disant « maudit chanceux ». Ça y tombe dans le bec.
Ouais.
Mais il n'est pas chanceux. Il a fait. Ça, c'est le H.
Exact.
Le A, anticiper positivement l'avenir. Si tu t'attends à ce que ça marche, tu vas mettre plus d'efforts.
Est-ce que vous restez... est-ce que vous continuez à lire les nouvelles?
Oui. Oui,
OK. Puis vous êtes capable de décrocher de ça?
Difficilement.
Oui. Parce que je suis en train de lire un livre, en fait, lire. J'écoute un livre audio. Okay?
Uh-huh.
Puis ce qu'il racontait, c'est que parfois, pour qu'il y ait des idées créatrices qui émergent, il décroche complètement de son environnement. Bien sûr qu'il est avec ses enfants, bien sûr qu'il est avec sa femme, mais au niveau de l'actualité, au niveau de trucs qui sont un peu plus, un peu moins pertinents pour son travail, bien, il laisse ça de côté.
Oui.
Et il mentionne que c'est à partir de ce moment-là que la créativité revient, alors qu'elle était partie.
C'est officiel. Hey, ça me fait penser à un livre que j'ai écrit.
Ouais, mais là, vous en avez écrit 150, oui. Là, M. Samson.
Lui.
Celui-là.
Soit positif ou Bedon reste chez vous.
Soit positif ou Bedon reste chez vous. J'aime ça.
Ben, je vais te conter la naissance de ça.
OK, allons-y.
J'ai eu la chance, quand j'ai fait le séminaire à l'Université de Pennsylvanie, d'avoir comme prof Barbara Fredrickson. Et Barbara, elle, quand elle a fait son doctorat, elle s'est posé la question suivante. Comment se fait-il que dans certains milieux de travail, les gens rentrent à 8 heures le matin, débordant d'énergie, font toute leur journée de travail puis quittent le soir encore en pleine forme.
Ouais.
Tandis que dans d'autres milieux de travail, les gens rentrent à 8 heures le matin débordant d'énergie, mais vers 8h10, 8h15...
Brûle et raide.
Commence à être pas mal fatigué. Ce qu'elle a découvert...
Ça m'intéresse, ça.
Ce qui fait la différence entre un milieu de travail énergisant ou vidant, c'est pas un job, c'est pas une responsabilité, c'est le ratio émotion positive sur émotion négative ressentie pendant la journée. Pour finir la journée aussi en forme qu'on l'a commencé, malgré l'énergie investie d'un tâche, ça prendrait un minimum de 2,9 émotions positives pour chaque émotion négative. C'est ce qu'ils ont appelé le ratio de positivité. Alors, imaginons que c'est l'hiver, quelqu'un rentre au travail, fait frette, croise un premier collègue qui dit « maudit qu'il fait frette, j'ai assez hâte à l'été », poursuit son chemin, croise une collègue qui dit « comment ça se fait que c'est jamais revenu Annie et ses hommes ?» Hey, la journée vient de commencer, il est rendu à 2 émotions négatives, ça va en prendre 6 pour finir la journée en forme. C'est là que ça devient important de réaliser qu'au travail, on est conjointement et solidairement responsable du ratio émotions positives sur émotions négatives. Et si on se lève le matin en écoutant CNN, on s'assure, en rentrant sa job, de ne pas se mettre à parler de ça. On est là pour remplir la chaudière d'énergie du monde.
Ouais.
Remarque qu'il y a un maximum à ne pas dépasser. Ils ont découvert que dépasser 13,2 émotions positives pour chaque émotion négative, on devient dysfonctionnel. On est comme dans la phase maniaque d'une maniaco-dépression, genre « the sky's the limit », « l'impôt me pognera pas ». Et ça peut nous amener à poser des gestes malheureux.
Ouais.
Mais, comme je le dis en conférence, 13,2 pour 1, ils ont juste atteint ça en laboratoire dans un environnement contrôlé.
Okay.
Dans la vraie vie, ayez pas peur. Dites-vous pas « Oh, 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 notre ratio est élevé, je vais dire une vacherie pour aider l'équipe. » Non. Contribue.
Ça fonctionne comme ça.
Ça fonctionne comme ça. En fait, un travail, c'est quoi? C'est un réseau de relations personnelles. Et si, au travail, on relève le défi du 2,9 pour 1, quand on se présente à la maison le soir puis quelqu'un nous demande « Et puis, ta journée chérie? » On répond avec un sourire. On dit « Hey, ça sent donc bon, qu'est-ce qu'on soupe? » Puis on passe une belle soirée, puis ça peut devenir un cercle vertueux, ça. Ça peut changer une vie.
Ouais. Est-ce que on s'installe pas un billet parfois dans nos têtes? Quand ça va peut-être un peu moins bien, on s'installe un billet, ce qui fait en sorte qu'on focus juste sur les trucs qui fonctionnent pas. T'sais, puis là, je veux pas insulter personne parce que je sais qu'il y en a qui vont reconnaître le beau-frère parce que je vais dire, mais il y a des gens qui sont un peu comme vous avez mentionné, parce que pour ce qui est des collègues de travail, ils ne se concentrent que sur ce qui ne fonctionne pas tout le temps. Puis on a besoin de ces gens-là, là, parce qu'à un moment donné, nous, on est trop positifs, on a besoin de quelqu'un qui va nous ramener. Tu sais, oui, l'entreprise va bien, mais avons-nous pensé à telle affaire, là où on a peut-être certaines difficultés? On a besoin de ces gens-là. Mais dans notre vie, en général, quand c'est nous qui sommes toujours négatifs, ça a un impact, ça. Puis comment on s'installe ce biais-là, puis comment on se le désinstalle? Puis justement, dans le livre audio que je suis en train de lire, il disait tout simplement « Concentrez-vous sur les belles choses ». Puis à un moment donné, ben, tu sais, le pissenlit, c'est lettre sur ton gazon, mais le pissenlit, quand tu le regardes, tu dis, ben, c'est une fleur, tu sais.
Puis l'abeille est contente, elle.
Puis l'abeille est contente. Puis on se concentre sur des affaires qui sont peut-être plus positives pour justement pas devenir le beau-frère fatigant, que ce soit à la maison ou à job, qui est tout le temps sur le négatif. Même quand on a des bonnes nouvelles à annoncer à ces gens-là, ils se disent, ouais, mais là, tu t'en vas en voyage, en road trip. T'as-tu vu à Chicago ce qui se passe? C'est dangereux, Chicago!
C'est ça.
C'est toujours des billets qui sont installés en eux, des billets qui sont très négatifs, puis ils te font part de leur propre peur à eux. C'est eux qui ont peur de passer par Chicago dans le road trip. C'est pas toi!
C'est ça. Ça me fait penser, il y a eu une expérience qui a été faite à Harvard à un moment donné où il y a un jeu vidéo qui était très populaire qui s'appelait Tetris.
Oui.
Des formes géométriques qui tombent. Là.
Oui, on s'en souvient.
Pendant cette période-là, ils ont engagé des étudiants qui devaient jouer entre 35 et 40 heures par semaine à Tetris.
OK.
Ils devenaient bons. Mais ensuite, on regardait les effets. Puis, ils sortaient du campus, par exemple, le soir, ils se promenaient sur la rue, ils regardaient les édifices, puis ils disaient « Non, ils l'ont pas. tu prends le pont, tu le vires de bord, tu le places ici, tu as une ligne. Il s'en allait à l'épicerie, il regardait les céréales. Non, 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 non. Lui, tu le mets là. Toc. Tellement focussé sur des formes géométriques qu'il ne voyait que ça. Puis l'être humain, s'il focus sur le négatif, il ne voit que ça.
Ouais.
Il se crée des œillères.
Mais on le fait, tu sais, on le fait. C'est, je ne sais pas si c'est instinctif en nous, puis s'il y a une raison biologique à ça pour laquelle des fois on s'installe un biais négatif. Mais quand moi, ça m'arrive, parce que je sais que vous allez, vous en reviendrez pas, M. Samson, mais ça arrive, je ne suis pas parfait. Des fois, je suis négatif. Et je me dis, il faudrait peut-être que je change mon mot, tu sais, quand mes gars m'achalent, là.
Oui.
Puis là, je suis tanné, là, ça fait 20 fois je vais les avertir. Puis des fois, je m'en vais m'asseoir à côté d'eux autres, puis je joue avec eux autres. Puis là, je les regarde aller, puis je me dis, ces deux petites bêtes-là, c'est grâce à moi puis leur mère qu'on les a conçues. Puis ils sont exceptionnels, ils sont en santé, ils sont brillants. Ben oui, ils sont tannants, mais au moins, ils sont pas malades. Là.
C'est ça.
Je pourrais être à l'hôpital au chevet de mon enfant, puis ce serait épouvantable de vivre ça. Là, ils m'achalent. Mais je suis dans le salon avec eux autres, puis j'ai du plaisir à y contempler, tu sais. Mais c'est là qu'on le change, notre billet, tu sais.
Ben oui, et en conférence, j'en parle, il y en a que leur phrase favorite, c'est « oui, mais ». Tu sais, t'es au travail le matin, t'arrives plus de bonne heure, mais il fait tellement beau, c'est tellement beau le printemps que tu restes dehors pour profiter du soleil. Un collègue arrive, tu y montes le ciel, tu dis « as-tu vu comment il fait beau, on est chanceux ». Puis il te répond, oui, mais va mouiller en fin de semaine. Moi, il est tout le temps quand je suis en congé. Ou ton petit gars vient de l'école avec son...
Le beau-frère, tantôt, le reconnaît.
Ton petit gars vient de l'école avec son bulletin.
Oui.
Il a l'air content. Il dit, hey, j'ai reçu mon bulletin. J'aimerais ça te montrer mon bulletin. Veux-tu voir mon bulletin? Ça, c'est un indice. Il aimerait que tu regardes le bulletin. Tu dis, hey...
Parce qu'il est fier.
Oui, montre-moi ton bulletin. Il l'ouvre. Puis il pointe. Regarde si je suis bon en mathématiques.
87!
Et toi, tu dis, oui, mais t'as-tu vu ta note en français?
Ouais.
Quel impact tu viens d'avoir sur son enthousiasme, là? Tu sais, au lieu de dire oui, mais, dis oui et. Oui, et si t'améliores ton français, ta prochaine étape va être fantastique.
Ouais.
Oui et, dirigé vers l'action, le futur. Oui, mais, t'éteins le monde.
Mais des gens qui sont pas positifs, vous voulez qu'ils restent à la maison, mais à job, on... Qu'est-ce qu'on fait avec ces collègues-là? Qu'est-ce qu'on fait quand on est patron de voir qu'on a un leader ou encore un employé qui est négatif constamment?
On se dote d'une charte anti-chiolage.
Et c'est des entreprises qui font ça?
Oui. Puis on se donne des habitudes de célébrer. Par exemple, souvent, dans beaucoup d'organisations, moi, des fois, j'anime des meetings. Et le premier point à l'ordre du jour, ils n'ont même pas commencé le meeting, qu'est-ce qui va mal dans le service? J'ai un incompétent, là, etc. Puis, ils se partent sur le négatif. Mais quand tu es sur le négatif, quand tu es en bas du 2,9 pour 1, tu utilises ton cerveau primitif. Fait que quand il y a un problème à régler, tu cherches le coupable. Dès que tu dépasses le 2,9 pour 1, tu as accès à tes fonctions supérieures. Puis, quand un problème se présente, au lieu de chercher le coupable, tu cherches une solution. Ça change le focus.
Ouais. Mais pour une entreprise, là, quand il fait affaire avec Alain Samson, les PDG, les directeurs généraux, est-ce qu'ils sont très attentifs à ce que vous leur dites? Parce que, je vais vous confier quelque chose que vous savez déjà, il y a des générations qui étaient plus dures parce qu'ils ont été élevés plus durs. Ils se sont fait dire que c'est comme ça qu'on dirige une entreprise. Puis là, ben, ils se ramassent avec le jeune de 20 ans qui, lui, ben, n'a pas été élevé dans la dureté. C'était plus la légèreté. Puis oui, on t'écoute, mon petit Guillaume. Puis oui, on t'écoute, mon petit Guillaume. Puis, tu sais, quand il y a Alain, qui est le directeur général, qui, lui, l'a tout le temps appris à dur, puis qui voit le petit Guillaume qui rentre à 8h07, mais il était supposé être là à 8h, tu te dis, OK, ouais... C'est lundi, peut-être que demain, il va être là à 8h. Finalement, le lendemain, il est là à 8h15. L'autre, sur le lendemain, il est là à 8h25. Ça doit être dur quand il voit un Alain Samson arriver dans son entreprise et dire « Ouais, mais t'as peu, là. » Quand il rentre à 8h07, il finit-tu à 16h ou il finit à 16h07?
C'est ça. Puis, j'ai écrit un livre là-dessus.
Encore?
J'ai écrit « Mon équipe est multicolore, mais je suis daltonien. »
OK.
T'sais, parce que tu peux pas traiter tout ton monde égal, tout ton monde pareil, ils sont pas pareils.
Mais avant, ça fonctionnait de même.
Oui.
Ouais.
Parce que moi, je suis d'une génération, quand tu arrivais sur le marché du travail, là, puis qu'il y avait une offre d'emploi d'affichée, Le boss, il recevait 300 CV.
Ouais, et c'était épouvantable. Il fallait trouver quelqu'un dans l'entreprise qui donne son nom pour nous.
Oui. Tandis que...
Il fallait être habillé propre pour les entrevues.
Oui.
Ouais.
Oh, puis il n'y a point que ça. Si le boss nous disait, OK, on te prend une entrevue, tu vas être dans la nuit de vendredi à samedi à 4 heures du matin, tu y allais. À cette heure, à Montréal, j'ai vu des entreprises qu'ils payent les gens pour qu'ils viennent à l'entrevue d'embauche.
Ben non.
Oui. 75$ dans ce coin-là pour qu'ils daignent se présenter.
Êtes-vous sérieux? En 2024, il y a des entreprises qui demandent à avoir des employés, des CV qui arrivent, puis si vous venez, vous allez avoir 75$. Parce
oui.
qu'il y avait trop de no-show, de gens qui ne se présentaient pas?
Du no-show, c'est ça.
Mais qu'est-ce que ça fait, ça, comme employé? Parce qu'à un moment donné, les employés, faut qu'ils deviennent comme des éléments positifs dans une entreprise.
Hein? Absolument. Dans un premier temps, on leur fait comprendre que s'ils veulent une vie agréable, il faut qu'ils changent le focus. Il faut qu'il y ait pour le positif. Dans un deuxième temps, on devient le prof dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'un coach, mais ils n'ont pas besoin d'un boss. Ils ont besoin d'un coach. Puis il y a des habitudes chez les patrons qui font en sorte que il y a beau avoir des résistances au début, mais dans pas long, vous allez bien travailler ensemble. C'est ça. En fait, il y a 10 commandements. Les 10 commandements du leader mobilisateur. C'est dans le livre « Mobilisez votre tribu
». Il y a des commandements.
Oui.
Ouais.
Un, sois clair quant à tes attentes. Je ne sais pas, il y a des boss qui pensent que la télépathie, ça existe.
Bien, savez-vous quoi? J'ai déjà oui. été de ce bord-là, moi.
Ah,
moi, j'ai toujours été selon la logique, tu sais. Puis de commencer à expliquer de A à Z à quelqu'un, voici son travail, alors qu'à un moment donné, tu as juste besoin de ton cerveau pour faire le travail, je trouvais que c'était un peu réducteur pour cette personne-là. Puis, mais je me rendais compte que, parce que je n'y ai pas expliqué au grand complet, ben lui, il allait comme à sa pensée à lui, puis c'était pas ça qu'il fallait qu'il fasse. T'sais. Alors que moi, je disais, mais voyons, la logique veut que ce soit là mm-hmm. que tu mettes ça. Je comprends pas pourquoi tu mets ça dans le cadre de porte. Ça n'a comme pas de bon sens. Là. C'est là. Je veux dire, ça peut pas être une autre place que là. Mais lui, tu n'y avais pas expliqué. Il en était à ses premières armes dans ce travail-là. Puis, écoute, tu n'y as pas dit. Fait qu'il l'a mis n'importe où.
Ben, j'ai une histoire là-dessus.
Mais finissons justement sur oui. le fait d'être très clair. Quand
Absolument.
On veut quelque chose avec nos employés plutôt que très flou, parce que la personne qui est floue peut être quelqu'un qui botche tout le temps, mais ça peut être personne aussi qui dit « Ben moi, je fais confiance aux êtres humains qui sont dans mon entreprise. Ben, maintenant, tu sais, tu le sais que ça se met pas ailleurs que là. » On a besoin de formation de ce genre-là.
Oui, puis voilà l'anecdote. C'est un consultant ressources humaines qui, un jour, reçoit un téléphone. Et les consultants, ils aiment ça. C'est un chef d'entreprise de Louisville. Qui dit, j'aurai un mandat pour vous. Ça, les consultants adorent ça. Qu'est-ce qui se passe? Et là, le boss dit, écoute, j'ai un contremaître. Je comprends pas, quand je l'ai engagé, il était bon. Et là, plus ça va, moins il est bon. Puis si ça continue, je vais le mettre dehors. Puis ça me tente pas parce que les contremaîtres sont rares. J'ai envie d'y donner une dernière chance. Viens jaser. Le consultant accepte le contrat, se rend dans l'entreprise, va voir Roger. Et avec un voix un petit peu craintive, dit « Puis, la job. » Et là, Roger bombe le torse, dit « La job, j'aime ça. Ça correspond à mon talent naturel. Sérieusement, là, je m'attends à une augmentation. » Là, le consultant se dit « Il y a comme un gap ici. » Retourne voir le boss et pose la question. Tu sais, le vendredi, quand tu décides si Roger a fait une bonne job, qu'est-ce que tu checkes? Le boss prend un pad, il dit, c'est facile, ça, ça, ça et ça. Un mois plus tard, le boss rappelle le consultant, dit, écoute, ton check est dans le mail. Roger est devenu bon, mais juste pour satisfaire ma curiosité, qu'est-ce que tu as fait? Et le consultant de répondre, j'ai donné ta feuille.
Mais là, vous n'auriez pas dû dire ça.
Pourquoi?
Ben là, le chèque, était-tu envoyé?
Oui, oui, il okay, l'a dit, okay, il était envoyé.
Okay. Le chèque était déjà parti.
C'est ça.
OK, ben là, c'est correct de donner la recette dans ce temps-là.
J'ai donné ta feuille. Tu sais, au secondaire, c'était qui le meilleur prof? C'est le prof qui disait, demain, examen surprise.
Oui.
C'est ça, c'était plus une surprise.
Oui.
Ensuite, il disait, toute la matière est couverte, mais si j'étais vous, je lirais surtout de la page 80 à 83.
C'est ça.
On les disait-tu, nos pages 80 jusqu'à 83?
Oui.
Le lendemain, on pète un score. Le prof était fier, il atteignait ses objectifs pédagogiques.
Exact.
Bon, ben être un bon boss, le premier commandement, c'est ça. C'est lui donner les questions de l'examen. Parce que quand ils ont les questions de l'examen, ils sont bons.
Oui. Mais tu sais, il y a plusieurs types d'individus, hein? Il y en a qui ont toujours besoin d'énormément de suivi. Ils ont toujours besoin de se faire rassurer par les patrons. Puis il y en a d'autres qui ont besoin de moins de maintenance. Moi, je fais partie des employés qui ont besoin peut-être un peu moins de maintenance. Puis j'évolue bien dans le moins de maintenance. Quand j'évolue dans un cadre qui est trop serré, c'est pas ça que je veux faire de ma vie, là. Il n'y a pas de place à la créativité dans ce type de cadre-là. Non. Il n'y a pas de place à prendre des initiatives parce que ce qu'on nous dit, c'est juste de rester dans le cadre. Donc, moi, ça s'adapte peut-être un peu moins à moi, mais il y en a d'autres pour qui, eux, ils veulent se faire dire exactement quoi faire. Puis, justement, comme vous dites, la liste à la fin de la semaine que vous avez faite remplir par le patron, si tu fais une bonne job, oui, c'est quoi, tu mets les crochets, tu donnes ça à l'employé. Bien, c'est un employé, lui, qui avait besoin de ça.
Ben
il avait
oui.
besoin de savoir c'est qu'est-ce que le patron voulait nécessairement, parce que le patron, il avait tout simplement pas dit, puis il était capable de bien évoluer là-dedans.
Ben oui, puis un autre phénomène aussi, un autre commandement des patrons, c'est féliciter le monde aussi. Au Québec, là, si on faisait tout le test des types psychologiques Myers-Briggs, on verrait que 40 % des hommes sont de type F, puis 60 % des femmes. Puis eux autres, là, ces gens-là, s'ils ne sont pas félicités régulièrement, ils en viennent à douter, à se dire, voyons, qu'est-ce que je fais de pas correct? Et leur productivité chute. Il suffit d'aller les voir de temps en temps, puis dire, waouh, bel job, puis pouf, on vient les recrinquer.
C'est... Un geste si simple qui est oublié par certains patrons.
Merci.
En même temps, M. Samson, je pose la question, parce que faut jaser vous et moi, là.
Oui.
Est-ce que... Moi, je recherche pas un modèle masculin dans mon patron. Moi, c'est mon travail, j'ai mes auditeurs, je jase et tout ça. Je recherche pas un modèle masculin ou féminin qui va venir me flatter dans le sens du poil pour dire « Hey, je fais une belle job », tu sais. Encore là, c'est pas tout le monde qui est comme ça.
40 % des hommes, 60 % des femmes au Québec.
Oui. Faut pas les oublier, parce qu'ils sont autour de nous.
Le boss doit connaître son monde.
Ouais.
C'est pas que tel numéro de carte de punch. Il y a quelqu'un derrière, là. Puis ce quelqu'un-là, s'il dit à son boss, ça va mal à la maison, notre gars est malade, il s'attend à ce que le boss, trois jours plus tard, il demande, puis ton gars, il va-tu mieux? C'est basique, ça. Ça s'appelle des relations humaines.
Oui. Puis les gens ont besoin de ça.
Absolument. Ils ont besoin de se sentir appréciés. En fait, c'est comme si tout le monde se promenait avec une grosse pancarte marquée « Rends-moi important ».
Oui. Parce que, tu sais, ce que je vous ai apporté comme modèle masculin, modèle féminin, il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas eu de modèle masculin.
Mm-hmm.
Donc, à chaque fois qu'ils vont aller travailler quelque part, ils vont prendre un modèle masculin qui est bien souvent un patron, puis qui vont s'attendre à ce genre de flat dans le dos en disant « Lâche pas, mon homme, je te vois évoluer, ça va bien. » Puis pour eux, je comprends tellement à quel point ça doit faire du bien quand t'as pas eu de peur pour te dire que tu faisais quelque chose de bien, puis ils t'encourageaient pas et tout ça. Mais ça peut être dangereux aussi. Ça peut être dangereux quand ton père il dit « Finalement, je te crisse dehors, ça va pas. »
C'est ça. En fait...
c'est cruel, c'est un deuil à faire par la suite. Parce que là, tu disais « T'as peur, ce gars-là, je le considérais quasiment comme mon père. » là. Mais c'est pas ton père. On est des numéros dans une entreprise, puis on a besoin, à mes yeux, à moi, M. Samson, puis vous me direz si je me trompe, on a besoin d'évoluer sainement dans cette entreprise-là, puis on a besoin d'être considéré sainement par les employeurs. Mais c'est du donnant-donnant.
C'est du donnant-donnant, et chacun doit faire sa part, chacun doit s'adapter à l'autre.
Exact. Mais, c'est, oui. mais je reconnais effectivement qu'on a divers employés dans une entreprise. Il y en a qui ont besoin de peut-être un peu plus de gestion. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins performants, cela dit, là. Mais il y en a qui ont besoin d'un peu plus de gestion, puis il y en a qui n'en ont pas du tout besoin. Comment je peux me percevoir que je suis un leader positif, négatif dans mon entreprise?
Ah, il suffirait de lire « Mobiliser votre tribu ». Je viens d'en écrire un qui est populaire dans les écoles en passant.
Oui, ben on va y venir tantôt. Mais comment je peux m'apercevoir si je suis un leader négatif? Je pense que les leaders positifs sont au courant qu'ils sont des leaders positifs dans une entreprise.
Oui.
Les leaders négatifs, malheureusement, ça existe. On l'a probablement, moi, je l'ai probablement déjà été sans m'en rendre compte. Mais je fais pas. Je suis dans ma voiture. J'écoute Alain Sanson, là, qui est un consultant, qui est un expert. Il me dit quoi pour que je me reconnaisse?
En fait, souvent, je vais utiliser des anecdotes, comme tantôt, là.
Ouais.
Des mises en situation, puis hey, c'est vrai, je fais ça, moi aussi. Quand j'arrive à la maison le soir, je me plains. Il fut un moment, les auditeurs le savent pas toutes, là, où la TV était en noir et blanc.
Moi, je le sais.
Okay.
J'avais une 14 pouces dans ma chambre, elle était en noir et blanc. Puis j'écoutais Jerry Lewis.
OK. Ben moi, j'écoutais...
C'est Jerry Lee Lewis.
C'était une grosse TV noir et blanc, là, ouais, avec des gros meubles. Là.
Ouais.
Puis le soir, on écoutait Appelez-moi Lise.
Ah, ben là, ça, c'est plus vieux que moi.
Oui, mais appelé... qui est devenu ministre par la suite, là.
Lise Payette.
Oui.
Ouais.
Bon, mais c'était pas rare, elle, quand elle faisait une entrevue, souvent, elle ouvrait son paquet de cigarettes, elle s'en allumait une, puis elle continuait à faire l'entrevue en fumant comme ça.
Mm-hmm.
Penses-tu que les gens dans le salon se disaient « Hein, elle fume à la TV, ça n'a pas d'allure? » Non. C'était normal. Tout le monde fumait partout. T'allais au resto le vendredi soir, tu te commandais un club. Puis derrière le comptoir, tu voyais le cuisinier en train de te faire ton club, puis il avait son top de cigarette cite avec la cendre qui pendait. Tu disais-tu, j'espère qu'il n'en tombera pas? Non, tu le voyais pas. Tu recevais de la visite le dimanche. Il arrivait en auto, le papa, la maman, les deux enfants. Il ouvrait les portières, puis un nuage de boucan sortait.
J'ai vu que ça.
Bon. Est-ce qu'on
les Noëls, quand tout le monde fumait, oui, dans la maison, les enfants étaient autour de la télé, puis on s'endormait, pas parce qu'on était fatigués, on s'endormait parce que les yeux nous brûlaient.
Dopé.
Honnêtement dopé.
Personne ne voyait la boucane, sauf que pendant que ce boucan-là était là, elle créait des problèmes. Elle nuisait. Il y a des gens qui tombaient malades. Eh bien, ce phénomène-là existe dans les organisations aussi. C'est invisible, on le voit plus, puis ça affecte tout le monde, c'est le chiolage. Puis il y a des gens qui sont pas d'un naturel chioleux, mais s'ils arrivent le matin, puis qu'ils ont quatre collègues en train de chioler...
Ils vont embarquer.
Je veux faire partie de la gang. Il y en a qui chiolent pour faire partie de la gang.
Ouais.
C'est ça. Fait que là, on se démoralise en partant en journée, on est sûr d'être sous-efficace toute la journée. Puis de voir les problèmes au lieu de voir les solutions.
Puis l'avantage ce qu'on pourrait faire, en fait, justement, pour pas devenir comme nos collègues qui ont une mauvaise passe cette journée-là, c'est de rester peut-être un peu à l'écart ou de devenir un leader positif, d'arriver au travers de la gang. Ça va-tu, tabarouette? Mais ça, un matin, vous n'avez pas de l'air de bonne humeur. Fait beau dehors, tu sais.
C'est ça.
On a une belle job.
On est chanceux.
Ouais.
Hey, on est né d'un pays
où... On fonce dans le tas, puis on le fait.
Des conflits, on n'en connaît presque pas.
Ouais.
On est gâtés.
Ouais.
Les Nord-Américains sont gâtés. Mais on l'oublie. Il y a quelques années, j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on a une crise de verglas. Les hivers sont curieux des fois. Plus d'électricité. On habitait d'un rang. Et plus d'électricité d'un rang, c'est plate. On se dit, est-ce qu'on appelle l'hydro? Puis là, ma blonde me dit, ben non, voyons, il y a sûrement un voisin qui a appelé. Une journée plus tard, on se dit, est-ce qu'on appelle Hydro? Appelle! J'appelle, Hydro arrive, une heure plus tard, nous répare ça. Il n'y a aucun voisin qui avait appelé, ils se disaient tout, il y a sûrement un voisin qui a appelé.
Ouais.
Hey, tu rentres dans ton bureau, puis tu fais ça, puis la lumière allume. Hey, il y a plein de monde qui ne l'ont pas, ça. T'ouvres tes robinets, t'as de l'eau. Bien, c'est sûr, pas d'électricité en campagne, le puits ne marche pas, t'as plus d'eau non plus. T'ouvres ça, hey, il y a quel pourcentage de l'humanité qui l'a pas, ça, t'ouvres des champleurs puis t'as de l'eau.
Ouais.
On devrait ressentir de la gratitude tous les jours.
Mais on n'en prend pas conscience tant on s'entend qu'on ne sort pas d'ici.
C'est ça. Il
ouais.
Y avait une chanson là-dessus, le bonheur, on ne le voit pas, sauf quand il est parti.
Exact.
C'est ça. Ben Deschamps aussi avait un monologue là-dessus.
Donc, mobilisez votre tribu.
Oui. Transformez-la en tribu. Parce que c'est pas parce que tu prends 400 personnes des mains ensemble que c'est une tribu, qu'elle est soudée, que chacun tient à l'autre puis est prêt à aller l'aider s'il y a de la broue dans le toupette. C'est pas ça. Quand tu ramasses du monde, tu les plugues ensemble, tout ce que tu as un attroupement. Faut les transformer en tribu. Puis, ben là, il y a plein de trucs là-dedans. Mais faut leur donner un sens de mission commune. Faut faire en sorte qu'ils apprennent à s'apprécier l'un l'autre. Et c'est toutes des choses importantes qu'on doit faire. Malheureusement, quelquefois, on suppose que ça se crée. Quand je donne une formation sur le travail d'équipe, premier travail, par table, ils doivent trouver une définition. Il y en a qui disent, bien, c'est simple, c'est un groupe de monde qui ont un objectif commun. Je dis, OK, comme ça, 5 personnes au coin de la rue qui attendent l'autobus, c'est une équipe.
Parce qu'ils attendent l'autobus.
Puis ils sont ensemble.
Ils ont ça en commun.
Oui, mais il manque quelque chose, là.
Ouais.
Puis on finit par découvrir que c'est un groupe de gens différents qui ont un objectif commun puis qui ont à cœur de contribuer positivement pour l'atteindre.
Ouais. Puis ça, il faut le trouver en l'entreprise.
Il faut le développer, ouais.
Puis ça, est-ce que c'est le directeur général? C'est-tu le gérant de la place? C'est-tu le président qui doit s'initier comme leader de ça? Mobiliser la tribu?
Si le leader est chialeux...
Ça peut pas fonctionner.
Jamais. Jamais. En fait, le leader doit être un modèle, doit être un exemple. Mais ensuite, la responsabilité est partagée. On parlait tantôt de 2,9 émotions positives pour chaque négative. Si les gens ne réalisent pas que c'est une responsabilité personnelle solidaire,
ouais.
Ça n'aura pas lieu. Puis ils vont rentrer chez eux le soir en chialant. Ils vont trouver le job plate. Quand? Simplement en virant un peu la façon de voir la vie, la job peut devenir le fun, puis on peut devenir super performant. Et on quitte le soir encore en pleine forme au lieu d'être sur le bord du burn-out à tout bout de champ.
Est-ce que les propriétaires d'entreprise, ou les présidents, ou les directeurs généraux, quand ils font appel à Alain Samson, à Société Conseil Alain Samson, est-ce qu'ils font trop tard la plupart du temps?
Souvent, oui.
Ouais.
Souvent, oui. J'étais à Rivière-du-Loup, je posais à des boss, je disais, est-ce que vous félicitez de temps en temps? Il y en a un qui lève la main qui me dit, j'ai déjà assez d'ouvrages à eux dire ce qu'ils font pas correct. Je suis pas en plus pour leur dire ce qu'ils font de correct. Un autre disait, non, si je les félicite, ils vont s'asseoir sur le laurier. Je veux les garder sur le qui-vive. Ben ça, un boss comme ça, j'en souhaite à personne.
Ouais, moi, j'ai déjà eu un boss qui était pas méchant, mais qui disait des choses des fois qui avait pas de maudit bon sens. C'est quelqu'un qui travaille en ressources humaines encore à ce jour. Puis c'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il m'a donné ma première chance en radio. Puis à un moment donné, il y a un animateur à Saint-Georges qui va le voir puis qui dit, là... Ça fait 5 ans que je travaille ici. Je pense que j'ai le droit d'avoir une augmentation de salaire. Puis je pense que j'ai le droit d'avoir un peu de respect de la part de mon employeur sur le salaire qu'il va m'offrir. Et la personne qui est en place à ce moment-là lui dit, « Ouais, mais écoute, là, t'es peu. Là, tu gagnes tant. Là, si je te donne tant, là, tu vas avoir des projets. Puis moi, ben, tu sais, tes projets ne m'intéressent pas tant. Je veux que tu restes avec moi, là. »
J'ai connu des boss de même. En fait, même.
Et là, il vient nous voir, puis il nous raconte ça en disant que le boss avait dit, ben là, si je te donne un peu plus d'argent, tu vas peut-être vouloir faire d'autres choses à un moment donné. Puis,
tu vas être autonome.
Puis je vais te perdre.
Oui.
Mais, je veux dire, il avait juste demandé du respect de la part de son employeur, puis l'autre a été carrément irrespectueux. En disant, tu veux des rêves, mais moi, je veux pas que t'aies des rêves.
J'ai déjà jasé avec un boss qui me disait que ça lui faisait plaisir quand un employé s'achetait un nouveau char parce que ça venait d'augmenter ses paiements mensuels, fait qu'il pourrait demander des heures supplémentaires.
Ah!
Ça, c'est du calcul utilitariste.
Ben, c'est du Machiavel, surtout. Là.
Ça l'existe.
Ben oui.
Oui.
C'est épouvantable. Donc, quand on a un problème à l'intérieur de l'entreprise, quand on est un dirigeant, faire appel rapidement à des sociétés conseils comme la vôtre, c'est la chose à faire. Parce que sinon, s'il est trop tard, les employés vont juste sacrer leur camp. Hein.
Et oui, et c'est qui... On vit une pénurie de personnel.
Ouais.
Mais c'est qui les meilleurs recruteurs dans le business?
C'est les employés.
C'est les employés.
Ouais.
Sauf que quand quelqu'un leur dit « C'est-tu le fun ou que tu travailles? » Ce qui... Ils ont un impact sur la réaction des gens et la réputation de l'entreprise. On ne peut pas se permettre ça. C'est nos meilleurs recruteurs pour plusieurs raisons. Quand un employé a recruté quelqu'un, bien souvent, il y a une prime monétaire, mais il devient son mentor. Puis il recrute des gens de qualité parce qu'il veut pas se faire dire c'est toi qui l'as trouvé celle-là.
Exact. Puis parfois ça peut être un chum, parfois ça peut être un membre de la famille, des fois ça peut être plus soudé des fois comme relation à l'intérieur de l'entreprise. Donc si la personne est bien à l'intérieur de son entreprise, puis en plus elle travaille avec quelqu'un qu'elle apprécie, c'est sûr qu'elle va rester peut-être un peu plus longtemps.
Et c'est un facteur de rétention certain parce qu'une des questions de Gallup sur êtes-vous engagé au travail, c'est avez-vous un meilleur ami au travail? T'sais, tu te rends de travailler, tu oublies de faire un stop, tu te retrouves avec un ticket, ça fait du bien d'avoir quelqu'un pour y raconter le matin. Ça fait une catharsis, puis tu n'as pas à traîner ça toute la journée. Même chose si tu t'es chicané avec ta blonde le matin. Si tu rentres puis que tu peux te confier, ta journée va être bonne au lieu de traîner ça tout le long.
Vous avez fait un livre, en fait, vous avez écrit un livre pour la collection Enfants résilients, ça s'appelle La civilité. C'est quoi ça? Monsieur Samson, c'est quoi la civilité?
La civilité, c'est utiliser un pouvoir. Dans les films, il existe certains pouvoirs. Les gens sont clairvoyants. Ils peuvent prédire l'avenir. La civilité, c'est pas être la politesse. C'est avant de dire quelque chose ou de faire quelque chose, te dire... Tu utilises ton pouvoir de clairvoyance, tu dis « OK, quels vont être les impacts? Va-tu falloir que je m'excuse demain? » Si oui, dis-les pas. Ou c'est imaginer, quand on a notre clavier sur Facebook, si j'avais telle personne que je respecte qui regardait par-dessus mon épaule, est-ce que je me sentirais bien? La civilité, c'est de réaliser qu'on a besoin des autres, que nul n'est une île. Mais j'ai appelé ça la collection enfant résilient, sauf que la première fois qu'on m'a demandé ce thème-là, c'était dans un hôpital.
OK.
Puis c'était pour les docteurs.
Oui, parce qu'eux autres, ils ont peut-être des fois la tête un peu ailleurs, ce qui fait en sorte qu'ils manquent énormément de civilité sans s'en rendre compte.
La direction les trouvait bêtes avec les infirmières et puis avec les préposés.
Ouais, c'est les normes sociales. C'est les, pour être un peu avec des gens qui sont dans le milieu de la santé, là, ce qu'on me dit souvent, c'est que les normes sociales, ils ont tendance à les oublier. T'sais. Les bonjours, comment allez-vous?
Merci.
Merci.
C'est ça. Fait que la dame m'appelle, elle dit, j'aimerais une conférence sur la civilité. Là, je dis, oui, mais écoutez, c'est des docs. Ils ont fait je ne sais pas combien d'années d'université. Ils vont-tu me lancer des tomates? Mais j'ai accepté le mandat. Je me suis rendu, on nommera pas l'hôpital.
Ouais.
Et ils prenaient des notes.
Ouais. Mais c'est parce que pour eux, ça peut être des banalités. T'sais, ils sont tellement dans leur tête que de dire merci, c'est une banalité. Je veux dire, ces gens-là sont là pour sauver des vies, ils ouvrent des cerveaux, ils sont capables de trouver l'endroit exact où ça va pas. Mais un simple merci pour eux, c'est une banalité, tandis que pour nous, ben, à un moment donné, t'sais, quand tu me demandes des choses, la moindre des choses, c'est de me dire s'il vous plaît, puis merci, on n'est pas, des esclaves. Là. On est des partenaires.
Puis la civilité, ça amène aussi une réciprocité. T'sais, là, je l'écris pour les enfants. Je dis, ce matin, là, ou demain matin, fais ton lit. Mais dis-les pas, vante-toi-en pas. Ta mère va s'en rendre compte. Après le déjeuner, dis, c'était bon. Elle va être surprise. Mais peut-être que ton souper va être encore meilleur, mais que tu arrives à soir.
Ah oui! C'est leur montrer des méthodes de manipulation des parents.
Oui! Sauf que quand tu apprends à bien manipuler tes parents, tu deviens un être plus civique.
Ben oui. Puis ça, est-ce que les livres que vous nous parlez depuis tantôt, bon, Sois positif ou Bedon reste chez vous, d'Alain Samson, Chialage interdit, Mobiliser votre tribu ou encore La civilité, c'est quoi ça? C'est disponible dans toutes les bonnes librairies?
Amazon.
Amazon, c'est disponible aussi?
Oui, parce
aussi.
Que je fais beaucoup d'auto-édition.
Oui.
Parce que je produis trop.
Mais là, 150 livres, M. Samson. Oui. Allez-vous arrêter à un moment donné d'écrire des livres ou...
Difficilement.
Ça fait partie de votre passion.
Hein? Ben oui. Regarde, il y a deux semaines, j'étais à Jonquière.
Ouais.
Jonquière, t'arrives la veille. Que ce soit faire tout seul dans ta chambre, t'écris.
Ouais.
C'est ça. C'est un mode de vie qui va avec le métier de conférencier.
Ben, c'est ça. Moi, j'en profiterai pour dormir, là.
Je le fais aussi.
Ben, vous écrivez des livres.
À l'occasion.
150. Je pense que vous êtes, parce que j'en ai rencontré beaucoup des auteurs, vous êtes le seul qui en avait écrit autant. Dans tous ceux que je reçois depuis 2006, M. Samson.
Eh bien. Ouais. Pourtant.
OK, il y a de la production. Je rappelle aux auditeurs que ce soir, on a le plaisir d'être avec Alain Samson de la Société Conseil Alain Samson. Si vous voulez le retrouver sur Internet, c'est assez facile. C'est à son nom, alainsanson.com. On va faire quelques minutes après avec M. Samson. Là, présentement, on va faire une pause, puis on revient tout de suite.
Marceau, le soir.
On passe la soirée avec Alain Sanson de la société Conseil Alain Sanson, formateur et coach pour votre entreprise, que ce soit au Québec ou encore au Canada. Monsieur Sanson, pour les besoins de l'entrevue, j'ai fait un peu le tour de la toile. J'ai été faire un tour sur Internet, puis j'ai vu que vous avez donné une entrevue à un journaliste. Je me rappelle pas dans quel journal, mais vous parliez de la pandémie, quand c'est arrivé. Tu sais, pour un auteur, un conférencier, vous, ça représentait la fin de votre travail, là. Comment ça a été pour un gars qui est tout le temps positif puis qui écrit constamment des livres, de savoir que pendant 2 ans, ça arrêtait, c'était terminé?
En fait, la première fois qu'ils ont annoncé « on ferme l'économie »,
ouais.
Moi, la semaine d'ensuite, je faisais la chute, je faisais Magog puis Matane.
Oui, parce qu'il y a un certain niveau de vie qui arrive avec votre emploi.
Absolument. Ce qui fait que mon agente m'appelle puis elle dit « ça n'a pas lieu la semaine prochaine ». Je dis « c'est pas grave, il y en a en masse ». Parce qu'il allait par petites shots, hein, à fermer l'économie. Ensuite, elle me dit, bon, ben pour le mois qui vient, il n'y a plus rien. Et, ben j'ai pogné un nerf.
j'ai relu mes livres.
J'ai pogné un nerf. En fait, je me suis dit, ça peut durer un an. Ouais. Ça a duré 3 ans, parce que même après la pandémie, ça a pris longtemps avant que l'industrie des congrès reprenne.
Ouais.
Ce qui fait que on était à Saint-Jean, on a vendu la maison. Ça nous a donné un fond de roulement. On va laisser venir. On est retourné à Drummondville. Puis je me suis assis à mon écran et j'ai écrit « Rebondir après une pandémie ». Un livre qui est disponible dans les librairies du Québec.
Oui. Mais ouais. Ça a-tu été une étape assez incroyable pour vous, ça?
Je pensais pas vivre ça dans ma vie.
Non, hein. Non. Ça, nous autres non plus. Puis, tu sais, j'en parle avec mes gars des fois. T'sais, vous autres, vous avez vécu, je leur dis, vous autres, vous avez vécu ça jeune.
Mm-hmm.
Mais moi, je l'ai vécu étant vieux. Puis, jamais j'aurais pensé qu'on vive une affaire comme ça, que le gouvernement nous dise à quelle heure nous coucher, là, quelle heure rentrer à la maison. Là.
Ben oui.
Fait que le gouvernement nous dise, ben, pendant le temps des fêtes, vous avez pas le droit de vous côtoyer. C'était un
couvre-feu.
Oui.
À 8h30, je pense.
C'était une époque particulière. Puis, tous ceux qui travaillaient justement dans votre domaine ont dû peut-être se réinventer. C'est-tu des choses que vous avez améliorées après la pandémie ou pendant la pandémie?
Pendant la pandémie, j'ai créé une compagnie qui offrait de la formation en ligne.
OK.
J'ai découvert Zoom.
Ben oui, c'est ça. C'est encore quelque chose de nouveau pour vous.
Mais c'est pas magique devant un écran.
Oui.
Ça ne pourra jamais remplacer être devant un groupe.
Oui, mais ça pouvait faire.
Ça a survécu.
Oui, ça a survécu. Puis aujourd'hui, quand quelqu'un veut rencontrer Alain Sanson, il peut parler par Zoom maintenant, parce que là, vous savez comment faire. Tu sais, il y a plein... Je vous parlais tantôt de courtiers immobiliers. T'sais. Maintenant, ils n'ont pas besoin de venir toujours chez vous pour faire signer les papiers. Ils peuvent vous les envoyer à distance. Puis vous signez à distance. Puis après ça, il n'y a pas personne qui s'est côtoyé. Tout le monde s'est jasé sur Internet. Là. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées avec la pandémie, puis ça a permis à des gens comme vous de se renouveler, là. Puis de se mettre à jour aussi.
Oui, j'ai écrit « Le leadership post-pandémie »,
ouais.
Qui s'adresse aux boss qui sont des boss de bécosse, là, qui ont besoin de savoir, là son break aux toilettes, il a pris combien de temps, puis tout ça. En réalité, la question, c'est est-ce que l'ouvrage est fait?
Mm-hmm.
Puis est-ce que le travail est bien fait? Si c'est fait, que c'est bien fait, si ça y a pris 5 heures au lieu de 7, tant mieux.
Ben oui.
La job est faite. Mais ça demande le développement d'une toute nouvelle mentalité chez les boss.
Ouais. Puis votre orgueil, comment ça a été pendant la pandémie? Moi, c'est ça qui m'a touché le plus, là, mon orgueil. Il a fallu que je me parle à un moment donné, là, parce que de me faire dire constamment que je ne pouvais plus pratiquer mon métier,
uh-huh.
De me faire dire constamment que si tu ne trouves pas un autre job ailleurs, on va te donner 2000. Ouais, mais moi, je ne veux pas d'argent du gouvernement, je veux travailler. Ouais, mais tu ne peux pas travailler partout, c'est fermé à certains endroits. Et que j'ai trouvé ça dur, j'étais très orgueilleux. Là.
Ah, je l'ai trouvé longue.
Ouais.
Ah, absolument. Ça a été très, très long. Et... Mais je travaillais sur l'espoir puis l'optimisme. Je me disais, ça va finir par finir.
Mm.
Ils peuvent pas donner des 2000 par mois à tout le monde pendant le reste de nos jours.
Ah oui. Puis moi, ce que je me disais, c'est que j'espère juste que si un jour, on se le souhaite pas, mais dans 3-4 décennies, s'il arrive quelque chose du genre, il y aura des écrits, des choses qu'on a bien faites puis des choses qu'on a moins bien faites. Vous avez vu Fauci aux États-Unis qui dit « Ouais, il y a des affaires, la distanciation de 2 mètres, j'ai pris ça un peu dans ma tête. » Il y a des affaires qui se sont passées que même nous, on avait des règles ici, on n'était pas vraiment capable de se les expliquer. Puis là, on se rend compte qu'on s'est fait avoir à certains endroits, mais eux, ils voulaient essayer de nous sauver le plus possible. T'sais. C'était un avion oui. qu'on construisait en plein vol.
C'est ça, il n'y avait pas de manuel de l'utilisateur.
Ben oui.
Il fallait le bâtir.
Exact. Je parlais avec Mark Hamilton, qui est microbiologiste, puis qui, lui, donnait régulièrement des entrevues pendant la pandémie. Puis il disait souvent, c'est une bête qu'on ne connaît pas.
Mm-hmm.
Un peu comme quand on a une entreprise, puis il y a une bête qui se développe. Là, les gens sont chialeux, sont moins positifs qu'ils l'étaient. Il disait un peu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait?
C'est ça.
Fait qu'il faut essayer de la découvrir, cette bête-là, puis de baser un avion en plein vol quand même, puis essayer de s'en sortir. Ou de faire affaire avec Alain Sanson, qui
Pourquoi
est un
pas?
Expert conseil. Ça a été une belle rencontre, M. Sanson. Vous êtes un écrivain prospère, on va se le dire. Ça va bien. J'espère que vous allez vous rendre jusqu'à 200. Avez-vous des objectifs pour vos livres?
Non, absolument pas. Moi, l'idée m'arrive, comme j'ai une commande pour Civilité.
Oui.
Et j'ai de la misère à monter une conférence si je n'ai pas écrit un livre. Parce que ça me permet de structurer ma pensée.
Ben oui.
Ce qui fait que c'est les requêtes des clients qui font que j'ai écrit autant de livres.
Oui. Voulez-vous lui faire un tirage avec vos livres?
Ben, je vous laisse ça.
On pourrait les faire tirer?
Ah, oui.
C'est gentil. Je ne veux pas vous obliger, mais je trouve que c'est important.
Pas les 140.
Ah non, pas les 140.
Ces quatre-là.
OK, je vais me contenter des quatre. Non, vous êtes bien gentil. Je vais faire tirer des livres d'Alain Sanson ce soir. On va le faire par texto 418-971-1021. 418-971-1021. J'ai le livre « Chialage interdit ». J'ai le livre « Sois positif ou bedon, reste chez vous ». J'ai le livre « La civilité, c'est quoi ça ?» Ça s'adresse aux enfants, collection Enfants résilients. Et le dernier, « Mobiliser votre tribu ». Donc, juste me dire par texto 418-971-1021 quel livre vous désirez. Puis je vais faire un tirage parmi tous les participants dans les prochaines minutes. Merci beaucoup, M. Sanson. On rappelle aux gens, aux directeurs d'entreprise, en fait, aux dirigeants d'entreprise, devrais-je dire, s'ils veulent faire appel à vos services pour ce qui est des relations humaines et tout ça, ils peuvent vous rejoindre de quelle façon?
www.alainsanson.com.
Passez une excellente soirée.